Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Tchad, au moins 26 militaires tchadiens ont été tués et 14 autres blessés, dont 8 gravement, mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun, en proie à de nombreuses incursions djihadistes. Selon le porte-parole de l'armée, plusieurs terroristes ont été neutralisés et le ratissage se poursuit. Et au Burkina Faso, au moins 30 personnes ont été tuées mercredi dans des attaques de djihadistes présumés dans le nord du pays. Nous aurons de Ouagadougou notre correspondant, Lamine Traoré. Au Mozambique, l'armée rwandaise, envoyée en renfort pour aider à combattre les djihadistes dans le nord du pays, riche en gaz naturel, a affirmé jeudi avoir remporté de premiers succès. Les Rwandais assurent se rapprocher de Mosimboada Praia alors que les insurgés ont fui Awase, un village repris la semaine dernière avec l'aide des forces rwandaises, vers d'autres villes en direction de leur QG de facto. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce un important remaniement gouvernemental avec 10 nouveaux ministres, notamment à la Défense, aux Finances et à la Santé, dont le titulaire, Zwelithini Mkhize, est accusé de corruption, et ce en rapport avec un contrat public pour lutter contre la pandémie de coronavirus impliquant deux proches collaborateurs, des rebelles de la région éthiopienne du Tigré en proie à un conflit armé, se sont emparés ce jeudi de Lalibela, un site célèbre pour ses églises taillées dans le roc, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial dans la région voisine d'Amara, selon des habitants. Le gouvernement libyen a annoncé hier soir un confinement strict de 3 jours de samedi à lundi pour lutter contre la hausse des contaminations au Covid-19 alors que le pays s'apprête à célébrer le nouvel an musulman. En France, malgré une contestation croissante dans la rue, le Conseil constitutionnel a validé hier l'élargissement du pass sanitaire à de nouveaux lieux publics, notamment les restaurants, cafés et trains, ainsi qu'une obligation vaccinale pour les soignants. La pandémie de Covid-19, qui repart de plus belle avec le variant Delta, a contaminé plus de 200 millions de personnes dans le monde, notamment en Asie. La Chine va s'efforcer de fournir 2 milliards de doses de vaccins au monde cette année et promet un don de 100 millions de dollars au système international COVAX de distribution des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé le président Xi Jinping. Aux États-Unis, après Google et Facebook, Microsoft a annoncé que le vaccin était désormais obligatoire pour les personnes se rendant dans ses locaux employés comme visiteurs. De son côté, le géant du commerce en ligne, Amazon, a décidé de repousser le retour obligatoire au bureau pour ses employés à janvier 2022 au lieu de septembre 2021. Le président américain Joe Biden a décidé hier d'offrir un asile temporaire aux ressortissants de Hong Kong face à l'érosion de leurs droits et libertés causée par la Chine. L'ambassade chinoise dénonce, elle, une ingérence, je cite, « grossière » dans les affaires internes de la Chine. Le Polonais Dawid Tomala est champion olympique du 50 km marche, 3h50.08 devant l'Allemand Jonathan Hilbert et le Canadien Evan Dunphy. Le Français Johan Dini, recordman du monde et champion du monde 2017, a abandonné peu après la mi-course. En basket, ce sera France-États-Unis en finale. Des ordres supplémentaires d'évacuation ont été émis hier face à la propagation du Dixie Fire, un gigantesque incendie en Californie qui a ravagé la veille une localité du nord de l'État, tordant les lampadaires sous la chaleur et détruisant plusieurs bâtiments historiques. La Turquie et la Grèce, frappées par une canicule exceptionnelle, bataillaient de leur côté jeudi contre une vague d'incendies sans précédent qui ont provoqué l'évacuation de centaines de villageois menacés par les flammes. La suite de nos informations. Nouvelle tuerie au Burkina Faso. Au moins 30 personnes ont perdu la vie mercredi dans plusieurs attaques dans le Sahel. Des attaques attribuées aux groupes terroristes par le gouvernement alors que le pays célébrait ce 5 août le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Selon le ministère de la Défense, plusieurs attaques simultanées ont été lancées mercredi contre les populations des villages de Dambam, Goudouba et Tokabangou. Des localités du Sahel, 11 civils y ont été tués. Alertés, les autorités ont décidé d'envoyer du renfort. Une unité du détachement militaire de Markoy dans la province de Loudalan, près de la frontière avec le Niger, et des VDP ont été immédiatement déployés pour sécuriser les populations attaquées, assure le ministre délégué à la Défense. Au cours des opérations, l'unité a été prise à partie vers 16h dans les environs du village de Tokabangou, a affirmé le ministère, précisant que 15 militaires et 4 VDP ont été tués. Le porte-parole du gouvernement VOA Afrique salue la résistance des forces de sécurité et des supplétifs de l'armée. Ousseini Tamboura.
Nos forces de défense ont opposé farouchement donc une résistance et ont pu neutraliser une dizaine de terroristes. Le gouvernement salue le courage et l'engagement des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie.
Cette attaque est significative et symbolique pour le pays en ce jour 5 août, jour d'indépendance. Pasien, analyse politique.
30 morts, ce chiffre est colossal. C'est une façon pour les hommes armés non identifiés de dire qu'elles sont déterminées. C'est une façon également de nous défier. C'est la manifestation claire de la crise de l'État au niveau du Burkina Faso.
Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au Cameroun mercredi et jeudi dans 3 accidents de la route impliquant des bus de voyage, a annoncé le ministère des Transports, Nathalie Barge.
L'accident le plus meurtrier s'est produit hier matin à Batchenga, à 60 km au nord de la capitale Yaoundé, et a fait 22 morts dans la collision entre un bus et un camion transportant du sable, indique un communiqué du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un autre accident avait fait 16 morts et plusieurs blessés à une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé. Après un choc entre un bus et un semi-remorque, un troisième accident a fait 2 morts et 28 blessés dans le centre du pays. Ces malheureux incidents qui interviennent en pleine campagne de sécurité routière mettent en évidence la négligence des compagnies de transport et des transporteurs de marchandises, a fustigé le ministre, informant qu'il procédera à la suspension de toute activité de transport en cas de nouvelle implication dans un accident de la route. Fin janvier, au moins 53 personnes ont été tuées dans la collision entre un car et une camionnette transportant du carburant. Et en décembre, au moins 37 personnes ont péri dans un autre accident.
Le nouveau président iranien Ibrahim Raisi se dit ouvert à tout plan diplomatique pour une levée des sanctions contre son pays. Mais il avertit qu'il ne cédera pas à la pression et aux sanctions. Le point avec Abdulrahman Dia.
Lors de la cérémonie d'investiture au Parlement, diffusée en direct par la télévision d'État, le président Ibrahim Raisi a dévoilé la priorité de son mandat, la levée des sanctions imposées à Téhéran en 2018 par l'ex-président américain Donald Trump après la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Les sanctions contre la nation iranienne doivent être levées. Nous soutiendrons tout plan diplomatique qui atteindra cet objectif, a-t-il déclaré, assurant que le programme nucléaire de l'Iran est pacifique. Il a néanmoins affirmé que la politique de pression et de sanctions ne parviendra pas à décourager l'Iran de défendre ses droits. Vainqueur de la présidentielle de juin, le religieux et ultra-conservateur succède au modéré Hassan Rouhani, qui avait conclu en 2015 l'accord sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances. Ancien chef de l'autorité judiciaire, M. Raisi, 60 ans, a pris ses fonctions mardi après l'approbation du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Sa prise de fonction intervient au moment où les négociations pour relancer l'accord de Vienne ont semblé bloquées ces dernières semaines. C'est aussi dans un contexte de tension entre Téhéran et des pays occidentaux après une récente attaque contre un pétrolier au large d'Oman qui a fait 2 morts.
Maintenant les sports, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le tournoi de football féminin connaît son dénouement à 2 jours de la fin des JO. Ce vendredi connaît aussi de grandes courses avec les finales du 5000 mètres messieurs et du 400 mètres dames. Hier, Hugues Fabrice Zango a décroché le bronze au triple saut, devenant le tout premier médaille olympique burkinabé. Il s'est classé 3e avec un saut de 17,47 m. Le Portugais Pedro Picardo a remporté la médaille d'or avec un saut de 17,98 m. Et le Chinois Yang Mingsu, la médaille d'argent avec 17,57 m. Le recordman du monde du triple saut en salle, 18,07 m, comptait faire mieux, mais se satisfait tout de même de cette médaille de bronze.
On était venu avec de grandes ambitions à ces Jeux olympiques. Et l'objectif, c'était effectivement de ramener la plus belle des médailles, hein, la médaille d'or pour le Burkina Faso, en ce 5 août. Malheureusement, les choses se sont plus ou moins compliquées en cours de chemin et on s'est contenté justement de cette médaille de bronze qui a été quand même difficile encore à obtenir. Finalement, on est assez content parce que nous avons pu ramener la première médaille olympique. Et j'espère aussi que dans les années à venir, ça inspirera des jeunes qui pourront ramener d'autres médailles et voilà, d'autres lauriers.
Hugues, justement, a eu du mal à entrer dans la compétition pendant les qualifications. Il est passé de justesse en finissant 12e sur les 12 premiers qualifiés pour la finale. En finale, il a aussi eu des débuts difficiles, mais il pense qu'il faut analyser tout cela après les émotions pour mieux se projeter vers l'avenir.
Il faudrait qu'on prenne du recul par rapport à ces Jeux olympiques, qu'on laisse passer tout cela, qu'on prenne du recul pour pouvoir analyser tout ce qui s'est passé. Mais pour le moment, on n'a pas forcément de gros éléments de réponse à apporter. Mais voilà, avec un peu de recul, je pense qu'on pourra trouver des raisons beaucoup plus logiques à tout ce qui s'est passé. Ouais, les perspectives sont simples, hein. L'année prochaine, il y a les championnats du monde en Oregon et on se rappelle les derniers championnats du monde, j'avais été médaillé de bronze et cette fois-ci, je viserai bien sûr la plus belle des médailles, la médaille d'or. Et donc, on continuera de toujours pousser plus loin le bouchon et pouvoir réaliser de belles choses au cours de l'année à venir.
En attendant, cette joie et cette fierté sont partagées par les parents de l'athlète burkinabé, notamment son père Jacques Zango.
Ça, c'est une immense joie parce qu'on l'a vécu en direct avec les frissons. Et au bout de compte, la victoire. C'est vraiment une joie immense pour nous, parents, et également pour tout le peuple burkinabé. Nous sommes très fiers.
Jacques Zango, père du triple sauteur burkinabé, Hugues Fabrice Zango. En heptathlon, pas de médaille pour Odile Awawanu, la béninoise seule africaine en lice dans cette épreuve après la blessure de la burkinabé Marthe Kwala, a fini à la 15e place avec un total de 6186 points. Loin derrière la vainqueur belge Nafissa Toutiam, 6791, Odile Awawanu était la dernière athlète béninoise qui est entrée en compétition dans ces JO sur les 7 qui ont représenté le Bénin à Tokyo. Même s'ils ne sont pas montés sur un podium, certains ont tout de même amélioré leur record personnel, à l'instar de Noélie Yarigo au 800 mètres et Odile Awawanu en heptathlon, joint à Tokyo par Élisée Nkpatine, le président du Comité national olympique béninois, se réjouit de la participation de ses athlètes.
Dans l'ensemble de tous nos athlètes, se sont très bien battus, en commençant par Yarigo, qui s'est offert très rapidement et sans grande difficulté les demi-finales d'une course très prisée, à savoir les 800 mètres. Ensuite est venu l'athlète des 100 mètres, Kiki. Vous savez très bien qu'il a fait plus qu'il en a l'habitude depuis des années. Et on parlera des deux athlètes de la natation qui ont fait pareillement chacun de son côté, sans oublier le tout premier qui est entré en lice en aviron, à savoir Prevel Rekanti.
Julien Minavoa, président du Comité national olympique béninois. C'est ici que se referme cette page consacrée aux Jeux olympiques.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les entreprises privées ploient sous le poids de la dette commerciale qu'elles n'arrivent pas à se faire payer auprès du gouvernement. La dette intérieure n'est pas traitée de la même façon que la dette extérieure. Les opérateurs économiques privés locaux attendent depuis des années d'être payés par l'État pour relancer l'économie nationale, nous dit de Brazzaville notre correspondant Arsène Séverin.
Si les choses sont assez claires pour la dette publique extérieure dont la Chine est le premier créancier avec plus de 1300 milliards de francs CFA, la dette intérieure, elle, est presque dans la confusion. Les opérateurs économiques avancent leurs chiffres, plus de 1000 milliards, et le gouvernement a le tien, environ 360 milliards, dont 145 milliards de dettes commerciales. Sur le terrain, la situation est difficile pour les entreprises privées qui broient du noir. Didier Sylvestre Mavouzela est le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire.
Aujourd'hui, le secteur privé a besoin d'être accompagné parce que la crise maintenant elle est multidimensionnelle. On est parti de la crise liée à la baisse de cours de pétrole à celle générée par la pandémie. Le secteur privé a besoin d'être accompagné.
Pour El Hadj Dibril Boupaka, président de l'Union des opérateurs économiques du Congo, le gouvernement doit entretenir un dialogue permanent sur la question de la dette intérieure.
Nous avons des grandes questions de la dette intérieure, commerciale et le sinistre, où tout le matériel du secteur privé est parti dans l'eau. Donc nous avons des questions de relance économique aussi. Le partenariat public et privé nécessite un dialogue permanent.
Récemment, en cette période de Covid, des entreprises ont préfinancé les travaux au compte de l'État qui malheureusement n'arrivent pas à les payer. Roger Aubès, président du collectif des opérateurs économiques du Congo, sonne l'alarme.
Il s'agit là des entreprises qui ont fourni au ministère de la Santé des ambulances, des respirateurs et autres. Ceux qui ont réhabilité le centre de santé, par exemple, les UNO, ne sont jamais payés. Et pourtant, il y a eu un moment, la solidarité africaine ou congolaise, où les entreprises, les bienfaiteurs ont donné à l'État suffisamment d'argent pour faire face à ces... voilà. Donc, vous voyez, donc tout ça, ça permet, ça démoralise un peu les entreprises. Nous demandons donc au ministre délégué qui est chargé de gérer cette situation de Covid-19, de payer les entreprises qui ont travaillé, qui ont presté pour le Covid-19.
En début d'année, le Congo a choisi le Club de Brazzaville, un conglomérat d'institutions financières dont la BGFI Bank, pour régler cette dette, dans la cagnotte 300 milliards de francs CFA, avec une décote quasiment de 30% sur chaque dossier. Le Congo vient d'adopter son budget dans lequel il prévoit le paiement de la dette intérieure. Les créanciers, eux, se montrent impatients et incrédules. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Et en République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu est considérée comme l'épicentre de la troisième vague de Covid-19. Plusieurs cas de décès consécutifs au coronavirus y ont été enregistrés. Parallèlement, le pays est en rupture de vaccins, une situation qui favorise des contaminations en masse au sein de la population. De Goma, un reportage de notre correspondant Patrick Lupika.
Cette propagation exponentielle du virus a fait voler en éclats les urgences en occupation et affluence de malades Covid-19. Docteur Alex Bati Munyakazi, chef de service de médecine interne à l'hôpital Charité Maternelle de Goma.
Nous avons totalisé environ 140 malades hospitalisés. Pendant ce mois de juillet, nous avions au total 200 malades hospitalisés, dont 140 qui avaient un test de Covid positif. Bien sûr que nous avons été débordés, comme la majorité des hôpitaux de la ville de Goma, nous avons été vraiment saturés au service des urgences. Et à un certain moment, nous avons même dû réorienter certains malades vers d'autres hôpitaux parce que nous n'avions pas de place. Et les pavillons destinés à recevoir les cas étaient vraiment saturés. Les urgences et la réanimation étaient saturées.
Même constat fait dans un autre hôpital, docteur Eric Kakuleki Hambou, médecin point focal Covid-19 à l'hôpital Kieshiro de Goma.
journalièrement nous accusons réception ou bien nous enregistrons des malades, en tout cas entre 5 et 10 malades par jour qui viennent dans un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et par rapport au taux d'occupation de nos lits, nous sommes aujourd'hui à 98%.
Les gomatraciens peuvent pousser un ouf de soulagement. La production de l'oxygène, jadis denrée rare, est faite à Goma. Docteur Eric Kakuleki Hambou.
Nous avons 3 unités de production d'oxygène dans la ville de Goma, entre autres une grande unité de production à l'hôpital de Keshero, avec une capacité journalière qui est supérieure à plus de 20 bonbonnes par jour. Cela étant, actuellement, en tout cas, il n'y a pas de problème par rapport à la productivité en oxygène, pas de rupture en stock, tous les nécessaires sont là pour leur prise en charge.
Le danger est là, le danger est permanent. La population a adhéré à la lutte contre l'épidémie. Merveille Kiro, habitant du quartier Mabanga Sud de Goma.
Personne ne peut nier que ce coronavirus, ces virus-là, n'existent pas en ville de Goma. Et des gens meurent tous les jours parce que, voilà, il y a insuffisance, par exemple, de médicaments, de bonbonnes. Beaucoup partent dans des hôpitaux, ne sont pas pris en charge parce qu'il n'y a pas de médicaments. Même des médecins également qui soignent, beaucoup ont été testés positifs et sont également mis en quarantaine.
La mortalité a été revue à la hausse dans la province du Nord Kivu, selon le docteur Alex Bati Munyakazi.
Nous avons observé pendant ce mois de juillet 33 décès, dont 28 étaient liés à l'infection à coronavirus. Par rapport aux 140 malades hospitalisés, nous remarquons que la mortalité était de environ 20%.
Il est pour l'instant conseillé aux personnes de troisième âge de rester à la maison. Depuis la commune de la Karisimbi, dans la ville volcanique de Goma, Patrick Lupica, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le Burkina Faso était pour la première fois de son histoire sur un podium olympique ce jeudi à Tokyo. L'athlète Hugues Fabrice Zango a remporté le bronze au triple saut, la toute première médaille olympique du pays. À Ouagadougou, c'est la joie et la satisfaction. Une médaille de bronze qui vaut de l'or. Les détails avec Lamine Traoré.
Historique, la première médaille olympique du pays décrochée par l'athlète Hugues Fabrice Zango ce 5 août, jour du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Dans les rues de la capitale, c'est un soulagement et une fierté.
En tant que Burkinabé, c'est un sentiment de joie, de fierté pour ce vrai combattant donc, qui a soulevé haut les drapeaux donc, de Burkina Faso. Surtout, ce n'est pas anodin en ces jours 5 août 1960 qui nous rappelle donc, la déclaration donc, de notre indépendance.
Vraiment, c'est un vrai soulagement de savoir qu'il a remporté une médaille pour le pays. C'est un pas pour inciter les générations à venir à faire mieux que lui.
C'est un sentiment de fierté, voilà, d'honneur pour nous. Et puis voilà, on ne peut que l'encourager et puis le souhaiter bonne chance pour la suite en fait. Voilà, en tout cas, on est content pour lui. La fierté du Burkina en fait.
Eric Zango est un véritable héros pour la nation burkinabé parce que nous sommes fiers de lui. Pour ce qu'il a fait pour nous, vraiment, c'est un vrai courage pour ce jeune homme. Qu'il continue comme cela.
On l'admire beaucoup. Cet athlète fabuleux, là, vraiment, il a beaucoup émerveillé pour la nation burkinabé.
Hugues Fabrice Zango voulait décrocher l'or. Il s'en sort avec le bronze. Un bronze qui vaut de l'or pour les Burkinabés.
Qu'elle emporte la médaille, même si c'est une médaille en bronze. En tout cas, on est content pour lui. Peut-être une année à venir, il pourrait remporter une médaille d'or et même être le meilleur du monde.
Il est troisième, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est un pas pour le pays. Vu aussi qu'il influence les générations futures, d'autres pourront faire mieux que lui.
C'est une grande première que, en tout cas, un Burkinabé nous ramène une médaille, quelle que soit sa couleur. C'est déjà un pas de franchi. Ça fait plus de 66 ans que nous participons donc aux Jeux Olympiques. Mais on n'a pas encore pu, en tout cas, ramener la moindre médaille. Voilà, pour les Burkinabés.
C'est déjà pas mal. C'est pas lui, il y a pas mal d'athlètes qu'ils ont éliminés au début. Nous, on a suivi la compétition. Mais Hugues Fabrice Zango, on l'encourage. Il n'a qu'à s'améliorer. Voilà, j'espère que dorénavant, voilà, il va nous apporter la médaille d'or.
Cette première médaille est unanimement saluée dans le pays des hommes intègres, même si les récentes performances de l'athlète avaient laissé espérer l'or. Désormais, les Burkina figurent dans le cercle des nations qui ont décroché une médaille olympique. On imagine un retour triomphal ici de l'athlète. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Ici aux États-Unis, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, est visé par une enquête accablante liée au harcèlement sexuel. La procureure de son État, Laetitia James, a terminé ses investigations qui n'avaient pas vocation à aboutir à une inculpation d'Andrew Cuomo. Des voix s'élèvent pour exiger la démission du gouverneur. Toutefois, ce dernier, même s'il apparaît de plus en plus isolé, résiste toujours aux appels à la démission. À quoi cette situation pourrait-elle mener? De quoi le gouverneur Andrew Cuomo est-il exactement accusé? Nanit Talani a joint Mohamed Moj, professeur d'histoire à Manhattan College à New York, ici aux États-Unis.
Il s'agit plutôt du gouverneur de New York. On l'accuse d'avoir touché de manière sexuelle et d'avoir abusé de son autorité avec un penchant ou des objectifs sexuels. Une douzaine de femmes qui ont témoigné dans une commission d'enquête qui avait été mobilisée par le ministre de la Justice de l'État de New York. Et ces accusations ont été prouvées par cette commission dirigée par un ancien procureur, très crédible, disons. Donc ça entache l'autorité de Cuomo, qui est donc décrit comme une sorte de criminel sexuel, ou en tout cas comme quelqu'un dont la sexualité est abusive par rapport à ses subordonnés.
Suite à cette situation, il apparaît un peu isolé, mais il résiste encore aux appels à la démission. Pourquoi?
D'abord, il fait partie de dynastie. Il ne faut pas oublier que son père a été gouverneur. Donc, il y a une sorte de DNA, si on peut parler ainsi. Deuxièmement, c'est pas facile de démissionner alors qu'il y a quelques semaines, avant que ces accusations n'émergent, il avait une cote très favorable et même envisagée et très certainement voulait se représenter pour un troisième mandat de gouverneur avec une forte popularité, prédisposé à être réélu. Et tout d'un coup, en l'espace de quelques semaines, le sol se dérobe sous ses pieds. Il est très difficile à ces moments-là de virer donc à 180 et de dire, bon, je ne suis plus candidat ou je me retire ou je démissionne. Et en plus, évidemment, ce serait accepter qu'il y a la vérité derrière ces accusations, alors qu'il s'est franchement défendu pendant tout ce temps en disant que c'était des mensonges ou bien alors des pièges tendus par ses adversaires politiques.
Que risque-t-il de se passer maintenant s'il maintient sa position de ne pas démissionner?
Il risque d'être mis en accusation, ce qu'on appelle l'impeachment dans le vocabulaire américain, donc par l'Assemblée, qui ensuite va passer le dossier au Sénat. Et il y a une forte majorité à l'instant qui est favorable à sa mise en accusation. Donc, ce qui veut dire qu'il va être très certainement condamné durant cette procédure. C'est pourquoi beaucoup insistent pour qu'il démissionne, alors qu'il est encore temps de sauver les meubles. D'autant plus que s'il y a un impeachment, il va y avoir certainement quelques personnes qui vont le défendre et qui vont être du parti démocrate. Donc, on peut voir un petit peu une certaine fissure. Une petite minorité du parti démocrate va le défendre, alors qu'une large majorité du parti démocrate ne va pas le défendre. Donc, il y a un risque pour le parti démocrate pour qu'on aille dans le processus d'impeachment.
Que risque-t-il sur le plan judiciaire?
D'abord, au civil, parmi la douzaine de personnes qui ont témoigné, certainement beaucoup vont aller au tribunal civil. Mais il y a aussi un risque, en fait, de tribunal criminel. Et il y a une menace qui est plus importante et qui est plus dangereuse, parce que là, il y a risque d'emprisonnement au criminel. Donc, et là, il y a actuellement 4 circonscriptions judiciaires qui ont déjà avancé l'idée qu'ils vont enquêter et peut-être le mettre en examen.
Mohamed Moj, professeur d'histoire à Manhattan College à New York, ici aux États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace out.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.